28 février 2020. Une Iranienne rôdait dans la Nanolab. Elle achevait l'installation de son expérience dans l'unique but, à la fin de ses 3 ans de thèse, d'expliquer à son directeur le protocole qu'elle avait longuement mis en place. « Ne fais pas la même erreur que moi, » me confia-t-elle. « Si j'avais étudié ce qui se fait dans la littérature, je n'aurais pas buté sur autant de problèmes. » La masse d'un épuisement latent épousa les traits joyeux de son visage. J'eus la conviction de l'universalité de sa mise en garde. Je ne fis aucun commentaire. Elle aussi avait voulu galoper jusqu'à la phase terminale de son projet. Il était presque 19 heures. Nous nous attardâmes au sous-sol, car la discussion nous était facile. Au bord du rire, nous oscillions entre confidences et remarques légères. L'Iranienne évoqua le coronavirus. « Tu crois que c'est grave ?» je demandais. « Je ne sais pas. Le docteur chinois qui en a parlé parmi les premiers, il en est mort, » ajoutai-je. Elle me regarda. Elle plongea ses yeux dans les miens. Nous commençâmes à rire. « Ne ris pas, » me dit-elle en me touchant le bras, « ce n'est pas drôle. » Il nous fallut un peu de temps pour nous reprendre l'espace d'un instant. Nous glissions dans une fêlure commune. La température chutait au dehors, et la nuit, balayée par le vent lourd et glacé du fjord, s'épaississait. Elle se fit plus confortable, et nous rentrâmes en marchant ensemble jusqu'à nos logements respectifs. Le temps glissait jusque-là, avec la régularité d'un courant d'eau, caché sous un épais corps de glace. Il commençait à s'accumuler dans une vasque de lac noir, dans le creux imperméable d'une pierre rapidement débordée. La fatigue qui me rattrapait, mes inquiétudes sur la fin de mes études, et le pont fragile qu'il me fallait repérer pour atteindre la falaise adversaire, ma contribution à la société, une indépendance financière, le déversement de mes ressources profondes dans un projet plus vaste. 13 mars 2020. Mon esprit se scindait depuis plusieurs jours. Il me fallait poursuivre la mécanique de mon stage d'un côté et déblayer de l'autre un passage vers ma sortie des études. Je préparais un entretien pour une poursuite en thèse et concentrait le faisceau de toutes mes volontés réunies pour le passer. J'en débloquais un nouveau. J'enchaînais les échanges. Il n'y avait sans doute personne d'autre sur le coup, me dis-je. Je me sentis courtisé. Une légère bouffée d'arrogance me permit de tenir et de voiler le sentiment de mettre le pied dans une impasse suffisamment longue pour qu'on ne puisse en voir le fond dès l'entrée. Les jours s'allongèrent et la lumière sembla atteindre la même intensité désagréable qu'en France. Elle dénudait le paysage et les routes grisonnantes. Mes rapports avec mes 2 colocataires, norvégiennes et danoises, n'avaient pas beaucoup de saveur. Mais ils survenaient parfois, comme dans la nourriture locale, la réminiscence d'un goût, d'un sentiment, d'un peu de plaisir. La Norvégienne nous invita bientôt à utiliser notre propre serviette pour nous sécher les mains. Elle souhaitait diminuer certains risques. Lorsque j'arrivais à l'université en fin de matinée, après un entretien en distanciel, je croisais un collègue français. Tous les étudiants de master devaient rentrer chez eux. Le site de l'université leur était désormais interdit pour 15 jours. J'appelais mon copain en France. Il m'assura que son laboratoire resterait ouvert. Il avait trop d'expérience en cours pour penser le contraire. Je croisais Viviane. Elle recula à mon approche. Il était recommandé de laisser 2 mètres de distance entre nous. Et dès qu'elle aurait davantage d'informations, elle me contacterait. Je rentrais sous une averse de neige fondue. Mon premier réflexe fut d'aller faire des courses. Mes placards étaient vides. J'avais déjà perdu du poids, majoritairement du muscle. Il allait me falloir de quoi manger régulièrement chez moi. Le Réma 1000 était plus empli qu'à l'habitude, certains articles étaient en pénurie. Mais je n'avais de toute manière pas assez d'argent pour tout prendre. À mon retour, la Norvégienne me dit que son père viendrait la chercher le lendemain. Puis la Danoise annonça qu'elle prendrait l'avion pour Copenhague le lundi suivant. Je n'avais qu'une hâte, celle de ne plus distinguer les remous impénétrables de l'existence de mes colocataires au seuil de ma chambre. Il me fallait la pièce commune vidée. J'attendis, et l'idée de devoir aller à la cuisine pour m'alimenter et croiser mes colocataires me devint insoutenable. Je préférais laisser mon ventre se faire déchirer par la faim. Je me préparais à une longue hibernation solitaire, avec peut-être ce fantasme de disparaître momentanément. Je m'allongeais sur mon lit, et de cet angle, je ne voyais que les sapins au mouvement sombre, le ciel qui s'était déchargé de neige et s'éclaircissait lentement. J'avais du temps devant moi. J'avais du temps à laisser descendre lentement dans mon existence. Je l'imaginais s'insinuer en moi avec la paresse d'une eau lourde, aspirée par capillarité à l'intérieur d'une parcelle de terre desséchée. Un épuisement constant avait ainsi racorni le terreau de mon âme sans en dilapider les richesses. La fatigue que je ressentais n'était pourtant pas insurmontable. Elle prenait l'aspect d'une pente très longue, mais très douce. Naturellement, je cheminerai jusqu'à son sommet, et je le saurai lorsqu'une masse d'air chaude m'enveloppera. Il me suffisait d'avancer avec la lumière du lieu.